une bonne analogie, c'est d'imaginer la société humaine, la société de nos ancêtres, il y a quelques milliers d'années, comme une espèce de grande mutuelle d'assurance, d'entraide, où chacun s'entraide. Et là encore, il faut penser que ce qui compte, c'est de faire des enfants, de passer à la génération suivante. Mais, et c'est vrai que parfois, c'est la compétition qui permet de le faire, mais souvent, c'est aussi la coopération. Les humains se distinguent particulièrement par le fait qu'on s'entraide, et c'est mieux, en la plupart des cas, c'est mieux de s'entraider. Si il se trouve que vous traversez une période où vous n'avez pas beaucoup à manger, là, vous allez prêter de la nourriture à quelqu'un, vous vous êtes cassé une jambe, il y a quelqu'un qui va vous venir en aide. Il y a énormément d'intérêt à la coopération, et Darwin le disait déjà. Donc en fait, la compétition et la coopération ne sont pas du tout contradictoires, c'est même parce qu'on est compétitif qu'on coopère.
N'aurait-on pas, comme on dit, planté le décor avec ces mots de Nicolas Baumard, chercheur au département d'études cognitives de l'École normale supérieure, qui était invité du Grain il y a 7 ans. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les mécanismes de l'entraide avec Pablo Servigne, agronome et docteur en biologie. Après Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, co-écrit avec Raphaël Stevens, au Seuil, gros succès de librairie, il revient avec L'entraide, l'autre loi de la jungle, au lien qui libère, co-écrit cette fois avec Gauthier Chapelle. Si l'entraide est partout autour de nous, en regardant faire les animaux, les plantes, les champignons, voire les micro-organismes, tout l'éventail du vivant, qu'apprend-on des origines de la collaboration? La solidarité a-t-elle des ressorts naturels? Peut-on coopérer à toutes les échelles? On va en parler avec notre invité à mes côtés, Camille Magnard. On est ensemble jusqu'à 13h30. Bonjour à vous, Pablo Servigne.
Bonjour. Bonjour.
Et si on commençait par un petit effort de définition, comment définissez-vous l'entraide?
Eh bien, l'entraide, c'est tout, on a rassemblé par le mot entraide tout ce qu'on trouve dans le vivant qui associe les êtres, enfin, les êtres vivants. Il y a du mutualisme, il y a de la coopération, il y a de l'altruisme, il y a toute une diversité, de manières d'être ensemble, de s'associer. Et nous, on a choisi entraide qui a une petite connotation un peu anthropomorphique, mais c'est parce que c'est à la fois un terme oublié par les sciences, et à la fois, il y a quand même une connotation chaleureuse dans le langage courant. Et c'est surtout un clin d'œil au géographe et anarchiste Pierre Kropotkin, qui avait publié en 1902 Mutual Aid, un formidable ouvrage qui a été traduit en français par son ami Élise Reclus par Entraide. Et c'est lui qui a offert le mot à la langue française.
Un géographe qui est parti faire des observations, notamment en Sibérie, qui met en avant ces questions de coopération que vous distinguez de Darwin, qui lui, dans les milieux tropicaux, a plutôt montré notre tendance à la compétition. La collapsologie, pour reprendre un des termes qui est présent dans votre précédent ouvrage, c'est quoi exactement? C'est une science de l'effondrement, et dans cette collapsologie, on peut la reconnecter à cette définition de l'entraide que vous nous donnez?
On peut la reconnecter, en fait, quand on a écrit le livre il y a 2 ans, Comment tout peut s'effondrer, on a fait une synthèse transdisciplinaire, un petit peu comme ce qu'on fait avec l'entraide, de tout ce qu'on connaissait sur la possibilité d'un effondrement de notre civilisation. Et puis alors, on l'a nommé collapsologie. Au début, c'était un petit peu comme ça, une boutade, mais ça a été pris très au sérieux, parce que l'idée est très sérieuse, et elle est reprise par beaucoup de personnes. Donc ce n'est pas encore vraiment une science, mais c'est l'étude la plus rigoureuse possible de ce qui peut nous arriver. Et c'est en lien avec l'entraide, parce que depuis 2 ans, on fait des conférences avec Raphaël Stevens. On rencontre beaucoup de publics très différents, soit dans le milieu associatif, le milieu politique, le milieu universitaire, etc. Et à chaque fois, la question, il y a une question qui revient, c'est est-ce qu'on va tous s'entretuer si jamais l'ordre social vient à disparaître? Est-ce qu'on va s'entraider? Et nous, avec Gauthier Chapelle, Raphaël Stevens, on est plutôt persuadé qu'on arrive dans l'âge de l'entraide.
L'idée fausse contre laquelle il faut lutter, à lire votre livre, c'est que la nature est gouvernée par l'égoïsme, la loi du plus fort qui serait la loi de la jungle. Votre constat, déjà présent dans Comment tout peut s'effondrer, Pablo Servigne, c'est qu'un monde, dans ce monde pourri par les inégalités, des inégalités qui sont facteurs elles-mêmes d'effondrement des civilisations, il y a peut-être moyen d'imaginer autre chose. Et vous pensez qu'en fait, nous ne sommes pas tant prédestinés à l'égoïsme, programmés pour nous entretuer, pas plus en tout cas qu'on pourrait l'être à s'entraider. Une question de Camille Manière.
On est dans un moment, vous l'étudiez, où on sent la menace de l'effondrement, vous parlez de collapsologie, donc l'effondrement d'une civilisation qui est la nôtre. Dans ces moments-là, c'est là justement qu'on est à l'heure des choix et que, comme vous dites, il y a cette bascule possible entre s'entretuer ou s'entraider. En tout cas, l'entraide peut naître et se développer dans un moment de chaos comme celui-ci.
Oui, mais en fait, on est toujours à l'heure des choix. On pouvait choisir aussi il y a un siècle. Ce qu'il y a, ce qu'on remarque, c'est plutôt que la société, notre société est en train de se décomposer. Disons que moi, je prends la métaphore de l'arbre. J'aime bien, il y a un grand arbre qui s'effondre. Mais c'est parce qu'il s'effondre que les jeunes pousses peuvent enfin émerger. Et donc, à ce moment-là, en ce moment, on est vraiment à ce carrefour. Il y a plein de jeunes pousses, elles ont du mal à émerger. Une nouvelle société qui émerge, on le voit avec la société de la collaboration, le peer-to-peer, l'économie collaborative. Tout ça est en train d'émerger, tout ça est très puissant. Ça fait pas encore société. Et on voit un vieux monde qui s'effondre aussi. Alors, les entreprises, en hiérarchique pyramidale, enfin tout un ancien modèle qui tient pas la route.
Et choses qui n'existent pas dans l'organisation de la nature, telle que vous dites, ce système d'organisation pyramidale.
Alors c'est assez rare. C'est vrai que le hiérarchique pyramidal est pas du tout efficace. En fait, enfin c'est efficace à court terme, mais ça tient pas sur le long terme. En fait, dès que les conditions du milieu changent, ça disparaît. C'est pour ça que dans la nature, on voit presque pas de hiérarchique pyramidale. Mais globalement, l'idée du livre, c'est pas du tout de nier qu'il y a de la compétition. Au contraire, il s'agit pas de le nier. Il s'agit d'arrêter de nier qu'il y a de l'entraide partout. Et donc, c'est plutôt une invitation à rééquilibrer le curseur et montrer, comme disait au début Nicolas Baumard, que lorsqu'il y a de l'entraide et de la coopération, derrière, il y a toujours un peu de compétition. Et inversement, quand on voit de la compétition, il y a aussi de la collaboration derrière.
Et la question du terreau est importante parce que on s'est rendu compte avec les années, les recherches qui ont pu être faites, que dans des périodes d'abondance, dans des sociétés d'abondance, la compétition est plutôt de vigueur, alors que dans des périodes de rareté, dans des sociétés de pénurie, c'est là que la coopération où l'entraide se développe le plus facilement. Dans la catastrophe, les hommes montreraient donc des signes positifs de résilience et ils pourraient s'entraider. Nous serions naturellement des êtres coopératifs. En regardant ce qui se passe autour de nous, les autres espèces du vivant, qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'est-ce qu'on trouve?
Alors c'est fascinant, il y a énormément de découvertes en ce moment. Par exemple, il y a des expériences économiques qui ont mis ensemble quelques individus, leur ont fait participer au bien commun. Et ce que les chercheurs observent, c'est lorsqu'on stresse les gens, les force à répondre vite, de manière plus spontanée, ils sont plus coopératifs, plus pro-sociaux. Et quand on les force à réfléchir, à utiliser la raison, eh bien, ils sont plus égoïstes, plus rationnels, ils participent moins au bien commun. Et c'est fou. Et en fait, ça corrobore assez bien tous les récits, les témoignages des gens, des rescapés des catastrophes, des tsunamis, des tremblements de terre, des attaques terroristes, etc., qui montrent, tous les récits convergent et disent qu'il n'y a pratiquement pas, jamais de panique et qu'il y a de l'auto-organisation et des comportements extrêmes d'altruisme. Et en fait, avec Gauthier Chapelle, on est allé voir dans tout l'éventail du vivant pour des bactéries, au phytoplancton, aux plantes, aux arbres. Et ce qui est fascinant, c'est que l'entraide émerge lorsqu'il y a pénurie, lorsque le milieu est hostile. Et lorsqu'il y a de l'abondance, le milieu est riche, alors la compétition peut émerger. C'est complètement contre-intuitif avec l'idée qu'on se fait de la nature. Et c'est ça qui est fascinant.
Oui, parce qu'on aurait tendance à penser que moins il y en a, tout simplement, plus on va se battre pour essayer d'avoir le peu qui résiste. Regardez ce qui se passe chez les autres espèces du vivant. Exemple, si vous le voulez bien, du rat, avec Michel Dancel, écrivain facétieux et auteur d'une anthologie sur le sujet, sur le rat, paru en 97.
Les rats seraient peut-être un peu scandinave et plutôt suédois même. Pour moi, les rats, politiquement, n'est-ce pas, sont des démocrates de droite.
C'est-à-dire
Les rats sont des démocrates. Ils ont un sens du collectif. Ils ont un sens du confort tout court. Ils ont un sens de l'entraide entre eux, n'est-ce pas, sur le plan social. Typiquement social. Et par ailleurs, ils thésaurisent, ils essaient d'élargir leur territoire. C'est une société qui capitalise. Seulement, tout en capitalisant, elle n'exploite pas.
Ce sont des libéraux progressistes.
Ce sont des libéraux progressistes, plutôt, oui. C'est ça.
Voilà, et vous dites, vous, Pablo Servigne, que la science a acquis énormément de connaissances qui permettent de rééquilibrer la balance entre coopération et compétition, mais que dans toutes ces découvertes, il y a toujours une part d'idéologie, c'est-à-dire que chaque découverte est aussi sujette à interprétation. On leur fait dire un peu ce qui nous arrange. Alors, je ne sais pas si c'est le cas en l'espèce de Michel Dancel avec le rat, mais dans quelles études êtes-vous, vous, allé chercher pour essayer de comprendre la place que l'entraide pouvait prendre aussi aujourd'hui dans nos sociétés?
Et moi, je suis issu plutôt de formation biologique sur l'évolution, l'écologie. Donc, j'ai étudié les fourmis pendant quelques années, la socialité chez les insectes. Et puis, j'ai été voir ce que les sciences sociales faisaient. Et alors là, c'est absolument immense. J'ai pas été formé à ça. Mais d'un autre côté, je remarquais que les sciences sociales n'étaient pas formées à la biologie non plus. Et ce qu'on a voulu faire, c'est beaucoup de ponts, des ponts entre des disciplines. Et aujourd'hui, en remarquant au fil des ans, puisque ça fait plus de 10 ans que je me passionne pour le sujet, eh bien, chaque discipline était un peu cloisonnée et avançait avec ses hypothèses et ses résultats, et parfois c'était contradictoire. Et depuis 4-5 ans, peut-être un peu plus, on arrive à faire des liens. Il y a des découvertes majeures qui sortent, en particulier en théorie de l'évolution, qui permettent d'avoir une vision cohérente de ce qu'on a maintenant on a appelé l'autre loi de la jungle, l'entraide.
Alors, quelle est la loi de la jungle, justement, chez les fourmis que vous connaissez bien?
Bien, les fourmis, alors, développent un...
Je ne veux pas parler des rats, mais si vous voulez parler des rats, est-ce que vous êtes d'accord
ou pas? Oui, c'est assez semblable. En fait, chez les fourmis, il y a une sorte d'altruisme, en fait, d'entraide familiale. Alors, il y a plusieurs types d'entraide dans le monde vivant. L'altruisme, c'est lorsque, là, je parle au niveau scientifique, il n'y a pas de connotation morale, lorsque un individu se sacrifie pour la famille, chez l'abeille qui laisse son dard quand elle pique, etc. Et même d'ailleurs, les ouvrières abeilles et les fourmis sont stériles, donc elles ne se reproduisent même pas. Donc elles participent à un super organisme. Là, on parle d'altruisme. Et puis, il y a de la coopération, par exemple, entre les lionnes. Les lions chassent, donc effectivement, il y a de la compétition, de l'agression, mais les lionnes coopèrent pour chasser. Vous voyez, il y a toujours un peu les deux. Et ça, c'est au sein d'une espèce. Mais aussi, ce que les scientifiques aussi ont découvert, mais il y a des dizaines, des milliers d'études là-dessus, c'est la coopération entre les espèces. Et ça, ils appellent ça, les scientifiques, des mutualismes. Donc c'est la pollinisation, la dispersion des graines, le fait que des oiseaux nettoient les tiques de certains mammifères, etc. Il y en a plein. Et nous, on a voulu englober tout ça. Donc c'est la diversité de toutes ces manières de s'associer. C'est ce qu'on a appelé la symbiodiversité. Il y a vraiment beaucoup de mécanismes. C'est très dur de les décrire en quelques minutes. Mais chez l'humain aussi, il y a énormément de mécanismes très fins qui font appel à l'empathie, la réciprocité, la réputation des normes sociales, des institutions. C'est très complexe parce que chez l'humain, il y a aussi une couche culturelle. Enfin, pas que chez l'humain d'ailleurs. Il y a des primates qui ont ça, il y a les orques qui ont beaucoup de culture aussi. Enfin, pas de la même, exactement la même chose, mais c'est aussi passionnant. Donc, on a tout un éventail de mécanismes et de processus évolutifs.
Mais si on se dit que la science n'est pas totalement objective, en tout cas qu'elle est sujette à interprétation, qu'elle est aussi le produit de l'idéologie de l'époque, quelle est l'idéologie qui, pour vous, Pablo Servigne, prédomine aujourd'hui? Sur quoi s'appuie-t-elle
aujourd'hui dans notre société? Ouais. Mais on a un bain idéologique, pour moi, très très compétitif. Enfin, moi, ça me rend mal à l'aise, et je pense que le livre, et à Gauthier Chapelle dira pas le contraire, est parti de cette idée que la mythologie, je dirais, parce que c'est largement inconscient, l'idéologie ambiante, elle est pas du tout représentative du monde vivant. En fait, Gauthier Chapelle et moi, on a une sensibilité depuis qu'on est petit pour le monde vivant, de naturaliste, et c'est pas ça qu'on observe dans la nature. Donc on n'aurait même pas dû avoir à l'écrire, ce livre. On devrait l'apprendre dès la maternelle.
Et pourtant, ce qu'on apprend à l'école, c'est le darwinisme, c'est la théorie de l'évolution, c'est plutôt une idée de compétition, pour le coup.
Exactement, on est dans ce bain, on est naître dans ce bain idéologique qui fait qu'on prend la compétition, l'agression comme naturelle. La nature, et par extension la nature humaine, pour la plupart d'entre nous, elle est naturellement agressive. Voilà, c'est la lutte, la violence, c'est la lutte de tous contre tous, pour reprendre les mots de Hobbes. Alors que moi, je suis plus d'accord avec l'idée de Hume, je crois, le philosophe, qui disait l'être humain, il naît altruiste et égoïste, et la société peut le rendre altruiste et égoïste. Et nous, à nous de faire bouger le curseur comme on veut.
Tout en étant dans des institutions comme l'école, comme l'éducation nationale, qui sont des grandes institutions d'entraide sociale. C'est peut-être ça qui est particulier aussi. Vous avez évoqué tout à l'heure le nom de ce géographe, Pierre Kropotkin. Qu'est-ce qu'il a trouvé, lui, dans ses recherches ?
Alors ça, c'est fascinant comme histoire, parce que Kropotkin, quand il était jeune, donc c'était un prince russe, il faisait partie de l'aristocratie russe, et il a aimé la lecture de Darwin quand il était jeune, et la sélection naturelle donc. Et donc Kropotkin a refusé une carrière à l'armée du tsar, et il est parti comme scientifique, comme géographe, biologiste, à la recherche de preuves de sélection naturelle. Mais il est parti en Sibérie, contrairement à Darwin qui est parti en milieu tropical, milieu d'abondance, et en Sibérie plutôt en milieu hostile, de pénurie. Ce qu'a observé Kropotkin pendant des mois et des années, c'est plutôt que les êtres vivants s'entraident. Et mieux, c'est que ceux qui survivent ne sont pas forcément les plus forts, ce sont ceux qui s'entraident. Et donc il en a écrit un livre qui s'appelle « L'entraide, un facteur d'évolution ». Mais il a été oublié à la fois par la science pendant tout le XXe siècle, parce qu'il a eu une vision... pas assez compétitive, on va dire, par rapport à la science occidentale. Je rappelle que la zoologie russe était darwinienne, donc croyait à la sélection naturelle, mais pas malthusienne. Ils n'étaient pas dans cette optique, justement, d'ultra-compétition. Donc Kropotkin a été oublié par la science occidentale, et aujourd'hui, il revient. C'est-à-dire que les scientifiques se remettent à le citer depuis les années 2000, on va dire, parce qu'il avait apporté cette idée majeure que l'entraide ne vient pas, comment dire, n'a pas pour cause la génétique. C'était la vieille idée des années 70 de la sociobiologie et de la polémique autour de la sociobiologie, qu'on est altruiste parce qu'on est proche génétiquement. Aujourd'hui, on en revient de cette idée. On prend le contre-pied, c'est-à-dire que l'altruisme et l'entraide émergent dans la nature par les conditions du milieu hostile. Et c'est le fait de s'associer qui fait qu'on survit. Voilà. Et donc, on se remet à citer Kropotkin. Et en plus, pour l'anecdote, il avait été oublié des milieux politiques parce qu'il était anarchiste. Et les milieux marxistes, non seulement n'aimaient pas trop les idées anarchistes, mais n'aimaient pas les arguments biologiques que Kropotkin... L'idée de Kropotkin était incroyable. Il disait, en fait, il faut plutôt lutter contre l'État. C'est en détruisant l'État qu'on pourra refaire sortir les capacités altruistes de l'être humain. Et pour les marxistes, c'était insupportable, qui pensaient plutôt à une page blanche, on peut faire ce qu'on veut de l'esprit humain, c'est totalement malléable, et on peut en faire un homme nouveau à partir du moment où on le veut et on construit une société nouvelle.
Mais vous voyez aussi un peu, d'une certaine manière, dans ce qui se passe aujourd'hui, dans ce monde ultra compétitif, dans cette catastrophe en cours, une opportunité peut-être de nous reconstruire, non ?
Oui, c'est clairement une opportunité de renaissance. En fait, ce livre, il apporte pas un modèle de société. Moi, ce que j'aime bien, c'est de faire provoquer des déclics, comme moi j'en ai eu à la lecture de tous ces travaux scientifiques, des déclics qui font des fissures dans notre imaginaire. Notre imaginaire ultra compétitif, j'entends. Et donc les institutions aussi. Et aujourd'hui, vous le disiez, il y a l'école, les coopératives, tout ça, c'est de l'entraide
la
institutionnelle
sociale,
énorme, mais ouais. On n'arrive plus à le voir, c'est invisible. Mmh. Et donc, c'est de enlever ces lunettes de la compétition et de remettre des lunettes un peu plus équilibrées où on voit la coopération.
Et l'économie coopérative, dont on parle pas mal, un peu à tort et à travers, des fois, ou en tout cas cette étiquette qu'on peut coller sur beaucoup d'initiatives et de tentatives économiques aujourd'hui, c'est quelque chose auquel vous croyez, qui est vraiment dans cet esprit-là ?
Ah, c'est pas que j'y crois, c'est que ça existe et c'est puissant. Quand toutes les entreprises d'économie sociale et solidaire, enfin, ça fait un bien fou aux gens, ça marche, enfin, économiquement, c'est solide. Et même, toutes ces entreprises coopératives, disons, horizontales, Jeremy Rifkin parle de pouvoir latéraliser, c'est très efficace. Et c'est très puissant. C'est une vague qui, moi, je pense qu'on peut pas l'arrêter.
Alors revenons aux sources, si vous voulez bien, de l'entraide. Fissurons nos imaginaires avec vous, Pablo Servigne. Pour l'heure, il est 13h17 sur France Culture.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Dans cet essai coécrit avec Gauthier Chapelle, L'entraide, l'autre loi de la jungle, paru au Lien qui libère, vous explorez minutieusement la notion de groupe, ses mécanismes, l'esprit de groupe aussi, comme on dit. Noyau dur de cette entraide, la réciprocité, principe moral des intentions aux actes, mais pas simplement. Vous avez appelé à contribution un sociologue, Alain Caillet. On voit que vous passez en permanence entre la biologie et la sociologie et que ces deux disciplines, et pas seulement, se nourrissent aussi d'une certaine manière. À la question de savoir, et ça c'est Marcel Mauss qui la pose, c'est l'anthropologue, si le don et le contre-don se complètent parfaitement et si cette réciprocité-là peut être anti-utilitariste, le sociologue Alain Caillet, qui a lui théorisé la société conviviale et préfacé votre essai, répond que cet acte d'entraide ne se fait peut-être pas de soi.
L'ambivalence fondamentale, je crois que c'est quand même la grande découverte de Marcel Mauss, c'est que le don, c'est d'abord un don agonistique. C'est un don de rivalité. Dans le don archaïque, il n'y a pas de séparation claire entre la générosité et l'agressivité, entre le cadeau et la déclaration de guerre. Il s'agit bien, montre Mauss en permanence, d'écraser son rival par sa générosité. Chacun des adversaires rivalise de générosité dans l'effort, mais ce n'est pas proprement parler de la gentillesse. Et pourtant, cette agressivité, cette rivalité est fondamentale pour qu'il y ait quelque chose. Sans ça, il n'y a rien. On essaie d'écraser l'autre, mais c'est en essayant de l'écraser qu'on le reconnaît. Il y a une possibilité de réversibilité permanente entre l'alliance et la guerre.
Alors est-ce que ça existe vraiment, Pablo Servigne, une entraide désintéressée, non calculée ?
Ah oui, ça existe. Oui. Alors Mauss, justement, il n'avait pas tellement creusé ça, mais aujourd'hui, on a vraiment tout un faisceau de preuves. Et, enfin, il faut lire la synthèse aussi de Mathieu Ricard, plaidoyer pour l'altruisme, qui développe beaucoup plus ça que nous. Alors nous, on est parti justement pour structurer cette autre loi de la jungle, d'abord du fait, j'en parlais tout à l'heure, que les êtres humains s'entraident spontanément. Si vous les stressez, si vous les forcez à répondre plutôt par l'intuition, ils vont aller vers la pro-socialité, mais ça fait pas société. Pour faire société, il faut, enfin, le cœur de l'entraide, vous disiez, c'est la réciprocité, le don, le contre-don, donner, recevoir et rendre, ça c'est Marcel Mauss qui le dit, c'est la grande idée d'Alain Caillet, des convivialistes qui ont repris la pensée du Mauss, c'est de constater que le cœur du social, c'est pas du tout le marché ou le dilemme du prisonnier ou c'est vraiment le don et la réciprocité. Mais entre deux personnes, il peut y avoir de la réciprocité très forte. D'ailleurs, c'est très puissant, c'est ancré en nous au niveau neurologique, au niveau hormonal. Enfin, c'est vraiment assez puissant. Et la réciprocité entre deux personnes ne fait pas non plus société. Pour faire des grands groupes, pour étendre la réciprocité au groupe, il faut des mécanismes, sinon, disons, la réciprocité, l'entraide se dilue et s'évanouit. Il y a plein d'expériences économiques qui montrent que dans un grand groupe, si on bouge les paramètres, par exemple, si on ajoute de l'anonymat, les gens vont de moins en moins collaborer. Enfin, l'entraide dans un groupe peut s'évanouir assez facilement. C'est quelque chose de puissant, mais c'est quelque chose de fragile aussi. Et pour stabiliser l'entraide, eh bien, au cours de l'évolution, les humains ont trouvé des mécanismes comme la réputation. Tiens, je vais coopérer avec cette personne parce qu'il a bonne réputation. Je l'ai déjà entendu coopérer, être altruiste. Et lui, par contre, c'est un tricheur. Ah, j'ai entendu dire qu'il était plutôt égoïste, donc je vais pas collaborer avec lui, etc., etc. Donc le mécanisme de réputation, pour moi, c'est un des ciments de la société. Pour moi, c'est un patrimoine mondial de l'humanité, la réputation et les ragots, etc. C'est fondamental dans le fait social. Et après, il y a les normes sociales et puis plus généralement la punition des tricheurs et des égoïstes. Quand on fait société, tous les principes moraux sociaux commencent par cette règle, enfin essayent de maintenir cette règle, de punir les égoïstes et les tricheurs et récompenser les comportements prosociaux. C'est la base de la plupart
des
morales.
Mais là,
c'est
plus très altruiste. Si on se dit qu'on va vivre nos vies à essayer de préserver notre réputation, je ne sais pas, vous avez bonne ou mauvaise réputation. C'est-à-dire que vous allez construire tous vos actes, penser toutes vos attitudes en fonction de cette réputation.
Alors ça, c'est une des faces de l'entraide. Mais justement, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que la théorie de l'évolution et la biologie apportent quelque chose, c'est de distinguer les intentions des actes. Et on peut s'entraider sans avoir une intention de s'entraider. Et d'ailleurs, au niveau biologique et évolutif, enfin, l'intention a peu d'importance finalement. Par contre, pour nous les humains, l'intention a de l'importance. L'intention et les actes. Donc il faut apprendre, il y a différents mécanismes, voilà, il faut apprendre à distinguer les deux. On peut s'entraider avec une intention vraiment pro-sociale et altruiste, on peut s'entraider sans intention. Mais voilà, on a plein de curseurs à bouger. Nous, ce qu'on fournit, c'est une boîte à outils conceptuelle avec plein de curseurs.
Vous redonnez l'exemple du, comment on dit, du potlatch?
Le potlatch, ouais. de Marcel
oui,
Mauss.
Oui, exactement, sur cette idée d'escalade sans limite, du contre-don. Qu'est-ce que ça nous dit?
Mais ça nous dit que la compétition est jamais loin. Donc le potlatch, c'est le fait qu'il y avait des chefs de tribus qui donnaient, et enfin qui entraient en fait dans une compétition à celui qui allait donner le plus. Et finalement, ça partait sur une folie en fait, en quelque sorte, une compétition de celui qui sera le plus altruiste. Mais tout ça, c'était pour garder le pouvoir en fait. C'était aussi des jeux de pouvoir. Voilà, mais la leçon, c'est que c'est vraiment complexe. Dans le livre, on développe aussi les écueils de l'entraide, c'est-à-dire que on peut s'entraider pour massacrer son voisin. Et plus on soude un groupe, plus il y a un risque d'exclusion de ce qui n'appartient pas au groupe.
Oui, c'était un peu la question que je voulais vous poser sur l'échelle à laquelle peut s'exercer cette entraide. Si elle s'exerce dans un groupe, on peut voir dans une période de guerre, comme on parlait tout à l'heure, il y a des phénomènes d'entraide qui sont renforcés, d'altruisme. Au sein du groupe, pour aller combattre le groupe ennemi, c'est aussi...
Absolument, c'est le principe du grand méchant loup. Pour souder un groupe, pour créer une entraide très forte, vous créez un ennemi commun. Mais après, on s'est posé la question, on est allé plus loin. Si on prend une vision un petit peu méta, est-ce que les groupes peuvent s'entraider? La question est oui. On répond dans le livre que entre les groupes, il y a les mêmes mécanismes que entre les individus. Le problème, et ça traverse aussi tout le livre et toute la biologie en fait, c'est le problème de la taille. Lorsqu'on arrive dans des tailles de groupes trop importantes, à ce moment-là, il y a des difficultés dans les mécanismes, c'est de plus en plus difficile. Et là, ça pose la question du climat. Parce que le changement climatique, c'est la possibilité d'un immense grand méchant loup qui pourrait permettre de réunir ou de faire coopérer tous les humains, en quelque sorte, là, pour la première fois. Mais c'est très difficile parce que les ingrédients ne sont pas réunis. L'ingrédient, on en parle de la confiance, de la sécurité, du sentiment d'égalité, etc., ou de justice. Tous ces ingrédients nécessaires à l'entrée dans un groupe ne sont pas réunis parce que les acteurs qui négocient actuellement pour le climat n'ont pas la même taille, n'ont pas le même pouvoir, le même poids, etc. Et il n'y a pas de sentiment de sécurité là-dedans. Donc c'est compliqué, c'est peut-être possible, mais c'est mal parti pour l'instant.
Des dérives possibles pour le groupe, ce fonctionnement sectaire à l'intérieur, une tendance préférentielle qui viserait à exclure toute personne pouvant menacer le groupe de l'extérieur, ça c'est pour le bêta, comme vous dites, mais pour le nano, on peut aussi se demander quelle place pour l'individu dans cette société, dans une société fondée sur l'entraide. Est-ce que ça veut dire forcément la dissolution du moi?
Voilà, c'est un autre aussi écueil de l'entraide, c'est-à-dire que lorsque vous avez un groupe qui se forme, une entraide très forte, un groupe à très forte cohésion qui se crée, parfois, il y a des déclics chez l'être humain, voilà, c'est une caractéristique, où le groupe fait super organisme et le groupe prend le dessus sur l'individu au détriment donc de la liberté individuelle. Et alors, ça peut donner le meilleur comme le pire. C'est les grandes réalisations humaines, mais aussi les grandes catastrophes. Les grands fascismes ont utilisé, ou des grandes religions, ont utilisé cette capacité qu'on a, nous les humains, parfois à faire corps, à faire un super organisme social. Et on peut, voilà, il faut s'en méfier, mais il faut savoir que ça existe aussi et on peut l'utiliser pour faire de belles choses. C'est typiquement ce que ressentent les supporters de foot quand dans une chorale de musique, où parfois il y a un sentiment où l'individu se dissout au profit de quelque chose de plus grand.
Et l'ambivalence des sentiments qui est permanente aux racines de la réciprocité, l'empathie aussi. L'ethnologue néerlandais Frans de Waal, auteur de L'âge de l'empathie, leçon de nature pour une société plus apaisée, ne dit pas autre chose sur ce revers de la médaille qui peut en permanence advenir.
Il faut faire une distinction. Les raisons pour lesquelles l'empathie ou d'autres formes d'altruisme sont évoluées sont des raisons d'intérêt, des raisons égoïstes. À le niveau d'évolution, c'est ça. Alors sans doute l'empathie s'est évoluée dans de petits groupes et de petites familles de gens ou des animaux où on s'aide entre eux. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément les raisons pour lesquelles on le fait comme individu. La motivation individuelle, c'est complètement séparé. Et je donne comme exemple la sexualité. Les raisons pourquoi on a la sexualité, c'est pour la reproduction. Mais pour les animaux, la reproduction ne figure pas dans leur décision d'avoir du sexe parce qu'ils ne connaissent pas la connexion entre sexe et reproduction. Et pour beaucoup de gens, c'est pour ça qu'on a le morning after pill, c'est beaucoup de gens, ça ne figure pas, pas non plus dans leur décision. Alors la motivation, c'est souvent autonome, c'est séparé des raisons évolutionnistes qui existent pour l'existence d'un certain phénomène.
Conclure avec Franz De Waal, voilà ce que je vous propose, Pablo Servigne. Finalement, ce livre, cet essai, L'entraide, l'autre loi de la jungle, c'est un peu un traité de survie qui ne vise pas tant à réduire les inégalités très fortes aujourd'hui qu'à nous apprendre à y faire face.
Je pense qu'elles vont se réduire toutes seules si la taille des sociétés diminue par ce qu'on pourrait appeler un effondrement. Moi, je dis, c'est une boutade qu'on arrive dans l'âge de l'entraide. Ça ne veut pas du tout dire qu'on arrive dans l'âge des bisounours. Ça peut être difficile, ça peut être très, très conflictuel. Mais le pari de ce qu'on pourrait appeler une transition, hein, c'est un peu un mot fourre-tout, mais c'est d'arriver, c'est de créer une culture de l'entraide, de la coopération par anticipation. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas vraiment les pénuries. Disons que ça fait des centaines de milliers d'années que les êtres humains y gèrent les pénuries. Le problème, c'est d'arriver dans les pénuries et les tempêtes à venir avec une culture de l'égoïsme. Et c'est là qu'on risque de s'entretuer.
Sur l'entraide, enfin, par rapport au-delà de l'humanité, terme que vous appelez, si j'ai bien compris, à dépasser, l'entraide, elle doit aussi s'exercer sur
avec les non-humains.
Le reste du monde animal.
Bah oui, si l'humanité, c'est déjà une exclusion des non-humains. Donc il faut apprendre à retrouver ce sentiment d'interdépendance avec les humains et avec les autres que humains. C'est fondamental si on veut tenir, survivre, enfin disons vivre longtemps sur cette terre, ça c'est sûr.
Merci beaucoup Pablo Servigne. Ça n'a pas été la loi du plus fort ici dans cette demi-heure.
Merci à vous.
Merci mille fois. Coécrit avec Gauthier Chapelle, L'entraide, l'autre loi de la jungle. Votre ouvrage vient de paraître aux éditions Les liens qui libèrent. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table, à Claire Maillot et Chloé Leblond, à Clémence Marie et Henri Leblond, avec l'aide précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. Rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine avec André Dussolier pour la première partie de l'émission et Hervé Lebras dans le cadre de notre journée spéciale « Pourquoi la crise des migrants fracture-t-elle l'Europe ?» Nous demanderons donc au démographe son regard. Il est l'auteur de « L'âge des migrations pour mémoire ». D'ici là, très très bon week-end à tous.